Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que. Aujourd'hui, pour cette édition d'Avant l'orage, je suis avec Justine. Bonjour Justine.
Bonjour Colline.
Justine, tu fais partie de la bibliothèque Les Lunes, Les Lins, Les Lynx, bibliothèque féministe, queer, antiraciste et intersectionnelle, qui est basée à la Cantine Populaire à Aubenas. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui nous tient beaucoup à cœur toutes les deux. C'est La résistance des bijoux, de Ariella Aïcha Azoulay. Le sous-titre du livre, c'est « Contre les géographies coloniales ». Donc c'est notre programme du jour. Et c'est un livre édité chez Rothbaugh-Crick. Et on va aussi parler tout à l'heure de cette maison d'édition. Donc, La résistance des bijoux, c'est un récit autobiographique qui mélange récits, théories, poèmes et images d'archives. L'autrice, elle nous parle de sa propre vie. Le point de départ, c'est sa date de naissance, qui raconte beaucoup de choses parce qu'elle est née en 1962, donc date de l'indépendance de l'Algérie du joug colonial français, et elle est née dans une colonie sioniste de Palestine. Le père de l'autrice est juif algérien et il a été expulsé, selon les mots mêmes de l'autrice, de l'Algérie à la fin de cette guerre d'indépendance. Donc c'était même avant la naissance de Ariella, c'était donc avant l'indépendance, et c'est une expulsion qui est orchestrée par le régime colonial français. Alors, avant de te poser des questions, peut-être je décris juste le contexte. Puisque, en effet, les Juifs algériens, ils ont obtenu la citoyenneté française, contrairement aux Algériens musulmans, depuis 1870, c'est le décret Crémieux. C'est ce qu'explique Ariella Azoulay, et que cette différence que va donc faire le régime colonial entre les Algériens juifs et les Algériens musulmans va aboutir à ce déplacement forcé au moment de la guerre d'indépendance. Un déplacement qui vise à effacer la présence des Juifs arabes en Algérie, alors qu'ils vivaient en Algérie depuis des générations, des siècles, bien avant la colonisation, et qu'il existe donc une culture judéo-musulmane. Et en fait, c'est ça l'histoire du père de Ariella Azoulay, c'est ce départ de l'Algérie et cette négation de son histoire familiale, avec aussi ce troisième nom, puisqu'elle s'appelle Ariella Aïcha Azoulay. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce nom ?
Du coup, c'est le nom de sa grand-mère. Et en fait, elle le découvre seulement à la mort de son père, quand elle a 50 ans à ce moment-là, quand elle voit l'acte de naissance. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi qu'elle décide de se réapproprier le nom et de le porter, parce que de base, c'est ce qui aurait dû se passer si ça s'était passé selon la tradition. Et oui, du coup, ce nom, c'est vraiment un marqueur d'identité arabe qu'on lui a caché pendant toute sa vie.
Et oui, parce qu'au moment de la mort de son père, elle a quel âge ?
Elle a 50 ans. Au moment de... Ouais, elle a 50 ans à ce moment-là, donc c'est... Ouais.
Tu peux nous lire un extrait ? Il y a un extrait qu'on a choisi ensemble qui parle de ça, de ce prénom.
Ouais, je vais vous lire un extrait du coup de son livre. Voilà. Dans cette valise, j'ai trouvé un bijou, composé de 5 lettres, écrites en filigrane, à l'encre fine, sur un morceau de papier colonial. A-I-C-H-A Aïcha. Aïcha. Une musique étrangère dans une langue perdue et retrouvée. Ce nom, Aïcha, écrit dans les documents officiels de mon père, fut le premier joyau incontestablement algérien dont j'ai hérité. Au moment où mon père est décédé, j'avais 50 ans. Aïcha. Cette musique si délicieuse, retrouvée dans la presse du colonisateur. Voilà pour l'extrait.
Merci. C'est l'occasion de dire aussi que c'est un texte très littéraire, avec une écriture, on vient de le voir, que moi je trouve super belle.
Oui, on n'arrive pas trop à s'arrêter. C'est tout joli.
Ouais.
Oui, et là, du coup, il y a aussi... Enfin, ça, c'est aussi pour son prénom, qui est donc son deuxième prénom, qu'elle décide de reprendre après. Mais en soi, elle avait déjà vu ce marqueur d'identité algérienne dans son nom de famille, puisque c'est Azoulay. En gros, ça marquait qu'elle était juive orientale, qu'elle avait une identité misraïe, qui était souvent dévalorisée au sein de la colonie sioniste où elle a grandi. Et du coup, souvent, quand elle était petite, elle essayait un peu de se démarquer de tout ça. Elle avait l'impression qu'elle n'en faisait pas partie. Et c'est au bout d'un moment, en fait, qu'elle comprend qu'elle aussi, en fait, a cette identité misraïe. Et du coup, enfin, son nom de famille aussi marque un peu, enfin, nomme son histoire et d'où elle vient et ses origines et l'histoire familiale.
Peut-être pour expliquer le contexte du fait qu'elle a grandi dans une colonie sioniste de Palestine, c'est que son père, il a donc été expulsé de l'Algérie, comme je le disais tout à l'heure, en tant que juif. Et ensuite, il a vécu en France. Et ensuite, il est allé dans cette colonie sioniste où elle est née. Elle est née dans cette colonie.
Où il a rencontré, du coup, sa mère, qui était une juive, du coup, palestinienne, donc qui a grandi en Palestine, avant qu'Israël colonise la Palestine.
Pour revenir sur cette question du nom Azoulay, qui est marqueur de l'identité donc, de juive orientale, on a un extrait qui parle de ça, on va l'écouter.
Ouais, je vous le lis. Quand j'avais à peu près 12 ans, ma grande sœur suggéra que nous changions de nom de famille pour prendre un nom hébreu. C'était là une pratique courante parmi ceux qui souhaitaient se dissocier de leur lignée et être assimilés à l'identité israélienne. Pour les dignitaires de l'État, c'était même obligatoire. En Israël, un nom hébreu veut dire un nom israélien, distinct de tout ce qui porte la marque de ce qu'Israël définit comme étant sa diaspora. Affectant autant les Ashkénazes que les Misraïm, ce principe de changement de nom reproduisait la violence coloniale exercée en Algérie un siècle plus tôt. S'imposant comme le centre de la vie juive, l'État d'Israël doté d'Israéliens, son sujet juif fabriqué, d'une histoire et d'un futur épigraphique. Enfant, je n'étais pas capable de faire de distinction dans cet amalgame entre hébreu et israélien. Pourtant, confronté à la requête de ma sœur suggérant que nous changions notre nom de famille, je ne pouvais plus me dérober face à la vérité que mon institutrice prononçait chaque jour en lisant à haute voix notre nom de famille. Quelque chose n'allait pas avec notre nom et avec nous. Nous étions comme elle, comme eux, ces Nord-Africains dont nous étions censés nous distinguer. Suivant mon intuition d'enfant, je compris que je me devais de soutenir l'idée de ma sœur. Et pourtant, mes parents rejetèrent sa proposition en affirmant qu'on ne change pas de nom. Ce fut une leçon pour moi qui transforma notre différence en une source de puissance et de libération. Ce qu'est notre famille excède ce qui est inscrit dans notre nom. Notre nom n'est pas la réminiscence d'un temps révolu. À ce moment-là, je ne saisissais toujours pas ce que pouvait être l'identité. Mais je comprenais que j'étais l'héritière d'un ancestral refus de la nomenclature coloniale, dont témoignait la détermination de mes parents à conserver intact notre nom.
Oui, donc elle s'appelle Azoulay. Et en fait, j'ai l'impression, enfin ce que je comprends, c'est que dans la colonie sioniste, où elle a grandi, c'est la honte en fait de s'appeler par ce nom, parce que ça renvoie à cette identité dévalorisée, honteuse, ce que tu expliquais tout à l'heure. Et qu'en même temps, elle est héritière d'une double identité, parce que son père ayant la nationalité française, en tant que juif algérien, eh bien, il y a une sorte de fierté qu'il ait vécu en France, qu'il ait une part occidentale, en fait. Et là, enfin, dans cet extrait, moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, c'est le fait que les parents, ils refusent le changement de nom, en fait. Et comme elle le dit très bien dans l'extrait que tu as lu, ils ont donné à Ariella les graines, enfin, en tout cas, l'illustration d'une forme de résistance face à cet effacement de sa mémoire familiale qui a été voulu par les différents pouvoirs coloniaux. Et là, on peut expliquer peut-être pourquoi cette volonté d'effacer la mémoire, l'existence, la présence transgénérationnelle des Juifs arabes au Maghreb en particulier.
En effaçant cette mémoire et en faisant comme si ça n'existait pas, enfin, comme s'il n'y avait jamais eu de juifs arabes. En fait, ça permet vraiment de nourrir un fantasme européen d'une tradition judéo-chrétienne. Et ça, ça s'opposerait du coup au monde arabo-musulman. Et sauf que c'est une opposition qui, en réalité, n'existe pas. Donc, comme on peut le voir juste à travers l'histoire d'Ariella Aïcha Azoulay. Enfin, c'est une opposition qui a juste été fabriquée par la colonisation et notamment qui est liée à deux projets coloniaux différents qui ont marqué son histoire familiale. Donc la colonisation française de l'Algérie et la colonisation sioniste de la Palestine. Cette opposition, elle permet de justifier les deux projets coloniaux. Notamment, par exemple, que les Français seraient à la rescousse des Juifs algériens qui les ont sauvés et du coup de se donner un peu à cet aspect de sauveur, quoi. Et aussi de créer une opposition entre Juifs et musulmans. Et ça, ça permet aujourd'hui encore de justifier la colonisation de la Palestine parce que du coup, ils sont vus comme étant contre, enfin, comme étant contre, alors qu'il y a une histoire qui est commune aussi, qui existe.
Oui, comme des sortes d'ennemis ancestraux. Mm. Alors que ce qu'elle montre, et c'est tout ce que tu viens de dire, elle le dit hein, elle-même, c'est qu'en fait, il y a un héritage judéo-musulman-arabe. Enfin,
ouais, oui.
Je ne sais plus quel mot elle emploie, mais il y a un extrait aussi qui parle de ça, mm. parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est donc expliqué dans la première partie du livre « La résistance des bijoux ». Cette première partie, elle s'appelle « Les langues des ancêtres ». Et Ariella Aïcha Azoulay, elle montre comment ce projet d'effacement de la mémoire des Juifs arabes, elle s'opère à travers l'effacement mmh. de la langue arabe. On va lire un extrait où elle parle de ça. Mmh.
Pourquoi serait-il, jusqu'à aujourd'hui, nécessaire de perpétuer notre exil de l'arabe, de nous tenir éloignés de notre langue ancestrale ? Dans l'intérêt de qui faudrait-il tenir les Juifs à l'écart de leur langue ? L'arabe, oui, leur langue, de les en aliéner. Qu'adviendra-t-il de l'islamophobie française quand les Juifs français diront « Anamin al-Yahoud » et laisseront l'arabe jaillir de leur corde vocale ? Quand nos ancêtres furent exilés de ce qui devint l'Espagne et le Portugal catholique et qu'ils arrivèrent en Afrique du Nord, que ce soit au Maroc ou en Algérie, ils faisaient corps avec leur version dialectale de la langue espagnole qu'on appelait « la Aquetia ». Et se percevaient comme des mégorachim, soit littéralement des expulsés. Ils apprirent de nouvelles langues, comme ils l'avaient toujours fait, mais n'abandonnèrent pas leur langue ancestrale, qui leur permettait de dire leurs expériences, de garder leurs secrets, de transmettre leur sagesse et leurs traditions religieuses. Tout cela sans avoir à chanter les louanges de ceux qui les avaient expulsés, ni à mentir à leurs descendants sur ce qui leur était arrivé. Dans ces langues vers lesquelles nous avons été exilés, que nous avons apprises, comme si elles nous étaient natales, nous étions nés pour répéter, à la première personne du singulier comme à la première personne du pluriel, les récits des colonisateurs sur ce qui nous avait été fait. Pourquoi devrions-nous endosser les intérêts de ceux qui se démènent à nous maintenir exilés de notre langue judéo-arabe ? Pourquoi ne pas interroger la nature de cette langue française qui fut donnée à des enfants, les exilant ainsi eux et elles-mêmes loin de leurs ancêtres. Leurs ancêtres furent privés du pouvoir de doter leurs enfants de quelques souvenirs secrets sur la nature de cet exil. Des souvenirs qu'auraient pu nous préserver, nous, leurs enfants, de naître comme déjà réconciliés, dans, par, avec, nos langues maternelles imposées. Ces avatars coloniaux qui encore nous entourent.
Merci.
C'était dur de choisir un extrait pour ça, parce qu'il y a plein de moments où elle en parle qui sont très, très intéressants. Enfin, ouais, j'ai juste envie de tout vous lire.
Mais on va lire encore plein d'extraits après. En tout cas, on avait choisi celui-là justement par rapport à la question linguistique, qui est vraiment la particularité de la première partie du livre. Et en fait, on peut dire que face à cette volonté d'effacement de la mémoire des Juifs arabes qui passe donc jusque par leur langue, eh bien, le titre du livre, il vient résonner très fort. Le livre s'appelle « La résistance des bijoux ». Donc, c'est les bijoux qui résistent. Comment tu peux expliquer ça ?
Bah, du coup, en soi, enfin, comme on voit la langue, comme ils ont essayé, en effaçant la langue, en fait, d'effacer une certaine histoire, elle, du coup, elle se raccroche à quelque chose de matériel, donc à travers les bijoux. Et c'est eux qui vont venir, du coup... qui vont venir continuer cette histoire et marquer, montrer qu'elle a existé, en fait. Donc, ils viennent résister à travers juste leur présence et leur persistance. Et donc, aussi, elle a choisi d'appeler ça des bijoux parce que, notamment, les Juifs algériens étaient souvent bijoutiers. Et du coup, cette pratique-là et leur art et leur technique, bah, elles ont continué. En fait, elles ont été préservées. Donc, on retrouve les bijoux et on retrouve la même... la technique qu'ils utilisaient encore au Maghreb aujourd'hui. Et les femmes arabes musulmanes portent encore ces bijoux. Donc, c'est un témoignage qui est vraiment... Enfin, oui, qui est matériel, en fait, de cette histoire. Et aussi, une importance des bijoux, parce qu'ils étaient transmis en héritage. Et donc, du coup, ils peuvent vraiment retracer l'héritage familial, en quelque sorte, et donc cette mémoire qui se passe. Ariella va utiliser donc ces preuves matérielles pour pallier à l'effacement de la langue. Et elle va utiliser ça donc, pour chercher la mémoire de ses ancêtres.
Oui, comme tu dis, avec l'idée que ces bijoux, on se les transmet, c'est un héritage, et donc finalement, elle recherche son propre héritage. Mm. Ça nous amène à la deuxième partie du livre, qui s'appelle « Les Juifs sont encore là, dans chaque bijou ». Cette partie, elle alterne des poèmes et des images d'archives. Ce sont des images et des photographies qui sont, donc c'est écrit dans la légende du livre, là je l'ai sous les yeux, elles sont d'Ariella Aïcha Azoulay, sauf mention contraire, donc sauf certaines, elles sont toutes légendées en fait à la fin, où elles sont issues de ses archives personnelles. En fait, ça se présente comme une collecte ou un recueil des preuves matérielles de l'existence et de la présence transgénérationnelle des Juifs arabes au Maghreb avant la colonisation de la Palestine et avant aussi la colonisation de l'Algérie. Et toutes ces images, elles sont mises en écho, en correspondance, avec des poèmes qui sont écrits par l'autrice, dont on vous en a déjà lu certains, qui font vivre ces objets. Donc, ça peut être des bijoux, mais ça peut être aussi des extraits d'actes de naissance, des pièces de monnaie, parce que les Juifs étaient bijoutiers, orfèvres. Au Maghreb, en fait, il y avait une tradition de ces métiers-là au sein des communautés juives. Mais ça peut être aussi des extraits de journaux, des actes de naissance. Il y a une sorte de métaphore, en fait, des bijoux, qui parfois c'est le véritable bijou, parfois c'est quelque chose qui est présenté comme un bijou par l'autrice, reconnu comme un bijou du fait qu'il est précieux, qu'il permet de transmettre un héritage. Et ben, on peut lire l'extrait page 126.
Oui, donc c'est un extrait du coup qui témoigne aussi de l'histoire des bijoutiers juifs au Maghreb. Alors, voilà. Beaucoup de bijoutiers marocains ont hérité du savoir-faire des bijoutiers juifs et ont consciemment assuré le rôle de gardien de la mémoire juive. Souvent, ils ne résistent quand même pas à la tentation ou à la demande du marché d'ajouter aux différents articles qu'ils fabriquent ou de mettre en avant et sans mesure des symboles aujourd'hui reconnus comme étant d'anciennes formes juives.
Et est-ce que tu peux décrire l'image qu'on voit à côté du poème ?
On voit différents bijoux qui ont des symboles juifs et musulmans qui sont un peu entremêlés. On peut voir aussi donc la légende qui dit que la photo provient d'un magasin de bijoux à Marrakech.
Et ce qui est intéressant, c'est que les légendes, elles y sont pas directement, il faut aller les chercher à la fin du livre. Donc moi, quand j'ai lu le livre, j'ai pas regardé les légendes, et ça suscite aussi de l'imaginaire, je trouve, de pas forcément avoir les légendes avec des images qui sont quand même de sources assez variées, parce que certaines, c'est donc Ariella qui les a prises en photo, mais d'autres, c'est des archives personnelles, donc qu'elle a archivées, comme elle a collecté ses preuves. Ça a une dimension très poétique, ces images en face des poèmes. C'est à la fois explicatif et poétique.
Oui, les seules fois où il y a des légendes qui sont présentes, c'est des légendes d'époque.
T'en as une sous les yeux ?
Bah, il y en a une notamment avec le portrait d'une femme et qui porte des bijoux qui ont notamment des symboles juifs. Et donc, enfin, en dessous, il y a écrit donc femme arabe.
Et moi, ça m'a quand même un petit peu interrogé certains aspects des photographies où ça, c'est issu d'archives personnelles de l'autrice, Ariella Aïcha Azoulay. Mais c'est quand même des photographies qui peuvent venir de... comment dire ? Par exemple, celle où il y a écrit « femme arabe », moi, je me demande si c'est pas une photographie produite par l'Empire colonial français. Et du coup, ce que ça dit, en fait, de la représentation des personnes, où c'est des représentations qui sont produites par les oppresseurs, en fait.
Bah,
ça
d'ailleurs,
m'a interrogée.
Je crois que c'est ce qu'elle dit aussi à un moment, si je me rappelle bien. Elle parle notamment du fait que son histoire, elle a beaucoup retrouvé, justement, dans les musées coloniaux. Et en fait, que c'est là qu'elle a pu répondre à des questions qu'elle-même se posait sur son identité, qu'elle a pu plus la comprendre, mais que du coup, forcément, il y a un filtre colonial et qu'elle a dû mettre tout ça en lien. Mais en tout cas, beaucoup des archives qu'elle a pu trouver, elles étaient seulement là-bas. Mmh. Et c'est du coup aussi beaucoup des images et des bijoux qui ont été volés et qui aujourd'hui se retrouvent complètement hors contexte, notamment dans des musées en Europe.
Mmh. Et aussi ce que tu dis sur le fait qu'elle a accès à cette mémoire principalement à travers l'iconographie coloniale. Et donc, pour revenir sur cette opposition entre juifs et arabes qui a été fabriquée de toutes pièces, il y a un poème très marquant que je vais vous lire. Ce n'était pas un crime que mon père cachait dans sa valise, mais plutôt ce que les Français avaient rendu contradictoire, le nom musulman de sa mère juive. Cependant, son acte de dissimulation faisait partie d'un crime dont il se trouvait être un des exécuteurs testamentaires, sans pour autant être un criminel. Il en était plutôt la victime. Dans cette dichotomie entre Français et Arabes, mes ancêtres avaient déjà commencé à vivre leur perte de mémoire, orchestrée par les Français entre l'Algérie et la métropole. Ce crime a un nom, la colonisation française de l'Algérie. Il s'est attaqué aux enfants, les poussant à trahir leurs parents, à s'éloigner de leur communauté, à ne pas se reconnaître dans leurs semblables. Il m'a fallu des années pour le comprendre, puisque j'ai tenu mon père pour responsable d'un autre crime colonial, auquel il n'a pas non plus pris une part active, mais auquel il ne s'est jamais opposé. Ce crime a aussi un nom, la colonisation sioniste de la Palestine. Donc c'est un poème de Ariella Aïcha Azoulay, extrait du recueil « La résistance des bijoux contre les géographies coloniales ». Et peut-être avant de passer à la suite, on peut dire, parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi ce livre ? En tout cas, toi, qu'est-ce qui te tient à cœur dans ce livre ?
Moi, je sais qu'il m'a beaucoup marqué parce que c'était une histoire que je ne connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler, encore moins à l'école. J'ai un peu découvert ça avec ce livre. Et aussi, juste parce qu'en général, ce qui se passe en ce moment en Palestine est beaucoup dans l'actualité. Et c'est important qu'on se renseigne sur ce qui se passe, sur d'où ça vient, sur l'histoire, en fait, autour du génocide qui est en train de se passer. Et aussi, la forme du livre, moi, m'avait beaucoup marquée parce que je ne m'attendais pas du tout à lire ça, à la fois de la poésie, une autobiographie, voire des photos sur l'histoire de quelqu'un. Alors, ça, c'était assez tout nouveau.
Et maintenant, est-ce qu'on peut dire deux mots sur l'œuvre de l'autrice, Ariella Aïcha Azoulay ? Elle a écrit quoi d'autre à part La résistance des bijoux ?
Elle a notamment participé aussi à un recueil de différentes voix juives et non-juives qui s'appelle « Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations » qui a été publié aux éditions La Fabrique. Donc là-dedans, il y a pas mal de textes différents qui s'alarment, notamment autour de ce procédé d'instrumentaliser l'antisémitisme et qui montre un peu les liens entre sionisme, antisémitisme et racisme colonial. Ensuite, à la Bibli, on a aussi, si vous voulez en savoir plus en général sur cette histoire, il y a aussi le livre « Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord » par Julien Cohen Lacassagne, aux éditions La Fabrique aussi. Et donc ça raconte en général plus globalement l'histoire juive et la présence juive en Afrique du Nord. Donc ça donne plein de repères historiques et c'est un peu plus du coup théorique, c'est plus sous forme d'essai, mais très intéressant.
Et La résistance des bijoux, c'est édité chez Rod Pocrick, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup à la bibliothèque Les Lins, Les Lunes, Les Lynx. Pourquoi ?
Parce qu'ils éditent des livres très chouettes. Et aussi, déjà, merci beaucoup parce que c'est des livres qui nous ont donnés à la bibliothèque et qui sont juste chouettes. Et aussi, du coup, pour parler un peu plus de cette maison d'édition, Rod Pocrick, c'est l'ancien nom du quartier de la Crique à Cayenne, en Guyane, qui était un quartier qui était hors de la ville coloniale. Et c'est aussi, à la fin des années 70, c'est devenu le nom d'une revue anticolonialiste qui avait été créée par Chaka Karebou, et donc qui donnait un peu de l'actualité sur la lutte tricontinentale. Et donc cette maison d'édition, Rod Pocrick, elle veut porter justement des paroles décoloniales qui viennent de tous les continents, et donc il y a à la fois des essais, à la fois des fictions, voilà.
Et c'est des livres qui sont super beaux et qui sont pas trop chers aussi. Enfin, j'ai l'impression quand on a lu tout à l'heure la présentation de la maison d'édition sur leur site internet, il y avait cette volonté de faire des livres qui sont accessibles. Là, on a un livre avec des photographies et il est seulement à 15 euros. Bon, de toute façon, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque Les Lunes, Les Lins, Les Lynx. On ne fait pas de la publicité. Enfin, si, on fait un peu de la publicité. Bon, bref, voilà.
Mais on n'est pas payé pour ça.
Et d'ailleurs, quel autre livre de la maison d'édition Rod Pocrick on peut trouver à la Bibli Les Lins, Les Lunes, Les Lynx?
Alors, on a par exemple Imaginer la libération, donc des femmes noires face à l'Empire, par Annette Joseph Gabriel. Et dedans, elle va raconter le parcours de penseuses et de militantes noires qui se sont engagées dans les grands mouvements contre la colonisation française. Ça, c'est chouette parce qu'on n'en avait pas beaucoup vraiment sur le contexte de la colonisation française. à la Bibli. Donc voilà. Il y a aussi L'Afrique dans le temps du monde par Mamadou Diouf, qui est pour le coup un essai où il recueille un peu les contre-récits à la mission civilisatrice de l'Occident. Et c'est des contre-récits donc, qui ont été produits par l'Afrique et par la diaspora noire. Et on en a un autre également qui pour le coup est une fiction qui s'appelle La couleur de l'oubli par Merle Collins. Et qui raconte un peu la transmission de la mémoire au sein d'une famille, donc à travers les générations. Et ça se passe dans une île fictive aux Caraïbes. Donc ça parle aussi bah, de tout ce qui est comment la colonisation a impacté l'île là-bas, notamment aussi de réformes agraires. Et donc plus généralement de cette mémoire transgénérationnelle. Et donc du coup, c'est des livres qui sont quand même très accessibles à lire, enfin qui sont écrits de façon à ce que beaucoup de gens puissent les lire.
Et alors, quand est-ce qu'on peut venir emprunter des livres à la bibliothèque Les Lins, Les Lunes, Les Lynx ?
Oui, vous pouvez venir tous les samedis midi. On a une permanence à la cantine populaire, donc on y est environ de 11h à 15h, je dirais. C'est au 14 rue Nationale, à Aubenas. Après, on a aussi un mercredi par mois où on est à La Petite Bulle, à Prades, dans un café associatif. Donc ça, c'est le troisième mercredi de chaque mois. On y est de 16h30 à 18h. Donc là, vous pouvez aussi venir emprunter. Parfois, on fait des lectures. Et après, ça nous arrive aussi donc, d'être plus en itinérance, donc sur des événements spéciaux ou alors en été sur les marchés. Et là, notamment, on va être le 6 avril à Aubenas, au Navire, pour le Festival Palestine en Vue. Donc, il y a un festival de cinéma qui a lieu du 2 au 6 avril, qui est organisé par l'association France-Palestine Solidarité. Et donc où il y a des documentaires et des films qui sont projetés sur la Palestine.
L'occasion d'approfondir aussi toutes ces questions. Mmh. Et comment ça marche pour emprunter un livre à la bibliothèque Les Lunes, Les Lins, Les Lynx ?
Pour emprunter un livre, du coup, nous on demande juste une adhésion à prix libre à l'année. Et après, globalement, vous pouvez emprunter jusqu'à 3 livres sur 2 mois. Donc, soit des BD, de la poésie, des récits, des romans, enfin, ce que vous voulez. Donc, c'est assez facile. Même si on n'est pas là, vous pouvez en emprunter.
Et où est-ce qu'on peut retrouver les infos de la Bibli ? Parce que la Bibli donc, est reliée à l'association d'éducation populaire La Fougue.
Oui.
Et je crois que c'est la manière dont on peut trouver des infos sur Internet.
Ouais, on peut les retrouver sur le site Internet donc, de La Fougue, sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi une possibilité de connaître tout notre catalogue, donc quels sont les livres qu'on a. Et notamment, s'il y a un livre que vous cherchez sur un sujet particulier, c'est possible de le retrouver sur le catalogue de Big Tata, un réseau de centres d'archives et de bibliothèques LGBT. Donc voilà, donc en allant sur Big Tata, c'est possible de retrouver tous les livres qu'on a.
Merci beaucoup, Justine.
Merci, Colline.
Et puis, à très bientôt. On se retrouve donc pour le festival Palestine en Vue du 2 au 6 avril à Aubenas et aussi à la cantine Pop le samedi midi.
Et tous les samedis aussi, il y a des manifestations pour la fin du génocide en Palestine à l'Agora à 11h.
À Aubenas.
Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que.